Bonsoir. S'il fallait résumer la politique européenne du Conseil fédéral, ce serait sans doute de cette façon. Le silence du Conseil fédéral sur la question européenne. Romain Cliva, l'analyse pour nous en ce début de forum. Et puis on en débat avec deux invités, l'UDC Éric Bertina de l'ASINE et le professeur Frédéric Esposito du NOMES. Tous deux vont débattre aussi de ce constat. La crise de la dette éloigne un peu plus la Grande-Bretagne du cœur de l'Union européenne. Les pays hors zone euro se retrouvent dans une sorte de deuxième cercle et du coup... C'est un vieux rêve de la Suisse qui se réveille, celui d'une alliance de libre-échange avec la Grande-Bretagne et d'autres. L'ancien Premier ministre britannique John Major prévoit le retour d'une nouvelle ALE. Nous appellerons Catherine Illich en direct de Londres tout à l'heure. Les partis traditionnels pensent leur plaie après la défaite de dimanche. Les libéraux radicaux ont fait leur introspection cet après-midi. On demandera à leur toujours président Fulvio Pelli comment et avec qui le parti entend construire son renouveau. Les élections tunisiennes, elles, sont contestées jusqu'en Suisse. Raphaël Grand nous révélera que le bureau de vote zurichois des Tunisiens va faire l'objet d'une enquête. Des électeurs tunisiens dénoncent une mainmise du parti islamiste Ennahda sur le processus de vote. On en parle dans une vingtaine de minutes. À quelques jours de son départ du gouvernement fribourgeois, on recevra Pascal Corbin-Boeuf pour une sorte de testament politique, pour lui demander aussi comment peut-on être ministre sans parti indépendant en 2011 en Suisse. On fera un crochet également par le Valais où ce qu'on appelait le réseau Santé Valais est décapité. La direction démissionne. L'épilogue d'un douloureux feuilleton devrait avoir le président démissionnaire, le bramoisien Raymond Pernet. C'est dans une cinquantaine de minutes. Les suppressions d'emplois de Novartis à Nyon ont relancé un passionnant débat sur ce que doit être le libéralisme. On entendait le ministre libéral Philippe Lebas dans Forum dénoncer les licenciements. Mais n'est-ce pas là finalement la simple loi du marché, celle du capitalisme? Un libéral, Michel Bard, et une socialiste, Adam Arat, sont avec nous pour en débattre. Ce sera vers 18h40. On portera un toast en fin de forum, un toast de vodka bien sûr, en l'honneur du légendaire Bolshoï. Il rouvre ce soir après 6 ans et 700 millions de dollars de travaux. Qui d'autre que Georges Niva pouvait évoquer ce temple de la musique russe? Ce sera vers 18h45. Le temps restera clément jusqu'à mardi. Du stratus, du soleil l'après-midi, 12 degrés, 17 en Valais. La météo de Sébastien Dupéret. C'est à la fin de ce forum.
Forum, Philippe Reva, Christelle Domingeau.
Et puis nous serons ce dimanche 30 octobre à Bulle, au café du Tonnelier, en public, en direct, pour un débat sur le développement du canton de Fribourg. C'est juste avant les élections cantonales. Laurent Caspary et ses invités, ce dimanche en public, café du Tonnelier à Bulle. Adam Arat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous serez à Bulle, au café du Tonnelier, dimanche?
Non, je crois pas.
Ça vous intéresse pas?
Si, je suis le canton de Fribourg avec grande attention, vous savez.
On imagine. Adam Arat, vous nous avez rejoint juste avant de développer tous ces titres, parce que vous revenez à l'instant de Berne, vous êtes conseillère nationale socialiste vaudoise. Et puis, vous arrivez pour nous annoncer en quelque sorte que la transparence dans les campagnes politiques, c'est pas pour demain. En Suisse, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ben, c'est passé que la commission du Conseil des États des institutions politiques, qui n'est pas un repère d'amicales de socialistes, a proposé il y a quelques mois quand même le fait de devoir dire qui sont les donateurs lors des campagnes de votation et que la commission Sœurs au National aujourd'hui a refusé d'entrer en matière sur cette motion. C'est donc un vote gauche-droite, j'ai pas le droit de dire les noms, mais vous pouvez aller voir la liste, gauche-droite typique, sauf avec une PDC qui a quand même voté pour. Donc voilà, la transparence en Suisse, c'est pas pour demain.
Mais Adam Arat, c'était Ursula qui avait lancé cette sorte de compromis, hein, transparence sur les campagnes de votation, campagnes politiques, mais les membres de son parti l'ont pas suivi, c'est ce qu'on comprend entre les lignes.
Oui, je l'ai dit clairement, gauche-droite. Droite, le PDC n'est pas encore à gauche, je crois, dans ce pays. Donc voilà, malheureusement, c'est une affaire qui est grave dans le sens où il y a le groupe Greco, qui est un groupe de recherche européen contre la corruption, qui fait ses allées et venues dans toute l'Europe pour voir où on en est. On a eu des auditions dernièrement, on attend avec impatience les recommandations qu'on pense pas bonnes actuellement.
Mmh. Adam Arat, on lit dans le communiqué du PS, il faudrait bien un jour qu'on dise les noms des gens qui refusent la transparence dans le financement en Suisse. La délation, appel à la délation, c'est ça?
Je crois que le vote au Conseil national, Dieu merci, ils sont transparent, encore cela, pas celui du Conseil des États d'ailleurs. On saura tout de suite qui est pour et qui est contre la transparence.
Mais c'est un nouveau Parlement qui va traiter cette affaire dans une nouvelle composition. Cette nouvelle composition, elle vous rend plus sereine sur le devenir de cette proposition? Peut-être que les Verts libéraux, le PPD, est plus favorable à cette transparence?
Bon, jusqu'à présent, le PPD, sur ces questions-là, n'a pas montré une grande ouverture. Les Verts libéraux, on ne sait pas qui c'est, donc on va bien voir. Mais je crois surtout, c'est que le peuple qui va trancher sur deux initiatives. L'initiative, par exemple, qu'a lancé Lucas Reimann, un jeune UDC qui se fait bien rembarrer dans son propre parti, pour savoir qui sont les donateurs en cas de campagne électorale, donc des personnes, ou celle d'un groupement qui a lancé aussi la transparence du budget des partis, qu'on va aussi récolter des signatures tout soudain. Donc le peuple va se saisir de ce sujet, puisque le Parlement ne veut pas en faire.
Adam Ara, de retour à l'instant de la commission à Berne, vous êtes socialiste vaudoise, vous êtes avec nous. On vous retrouve vers 18h35 pour débattre de libéralisme, un débat un peu philosophico-politique autour de ce qui s'est passé avec Novartis à Nyon.
On va parler maintenant d'Europe, le dossier européen qui a été un des grands absents de la campagne électorale. Et pourtant, la tension est remontée depuis ce mercredi. Le Conseil fédéral s'est réuni pour un séminaire sur sa future politique européenne. Et malgré l'importance du sujet, le gouvernement n'a pas jugé bon de communiquer les résultats de ces discussions. Et rebelote aujourd'hui, on apprenait par un communiqué de presse de 4 lignes que 2 rapports d'experts concernant cette même politique européenne ne seraient pas publiés. Romain Cliva, c'est une curieuse manière de communiquer.
Mercredi, le Conseil fédéral s'est contenté d'envoyer son porte-parole pour nous dire qu'il continue de travailler. Aujourd'hui, c'est sur 4 lignes que la non-publication de 2 rapports d'experts est annoncée. On peut donc dire que la communication sur l'Europe est pour le moins minimaliste ces jours à Berne.
Est-ce que ça veut dire que ces rapports sont explosifs?
Plus qu'être explosifs, c'est leur existence qui n'aurait pas dû être rendue publique. Mais il y a eu des fuites dans la presse. En fait, il s'agit d'un avis de droit et d'une prise de position du tribunal fédéral qui interprète les accords bilatéraux actuels et évalue les différentes options qui se présentent à la Suisse pour l'avenir. Il livrerait ainsi sur un plateau des arguments à l'adversaire. En clair, le Conseil fédéral ne veut pas montrer son jeu à l'aube de négociations.
Mais ces discussions semblent au point mort.
Disons que si diplomatiquement on continue à se rencontrer, chacun semble camper sur ses positions. Et cela depuis des mois. L'Union européenne ne veut pas avancer sur des dossiers concrets tant que des aménagements institutionnels ne sont pas effectués. Elle aimerait dynamiser la collaboration bilatérale, ce qui passe par une reprise simplifiée du nouveau droit de l'Union et un règlement facilité des conflits entre les 2 partenaires. Pour la Suisse, il n'est pas question de reprendre automatiquement le droit européen. Elle veut une solution qui respecte sa souveraineté. Mais d'un autre côté, la Suisse aimerait bien faire avancer plusieurs dossiers concrets, par exemple celui de l'énergie.
Alors justement, qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation?
C'est la Suisse qui devrait faire le premier pas, car l'Union européenne attend depuis des mois des propositions sur ces questions institutionnelles. Et le Conseil fédéral élabore actuellement un mandat de négociation qui pourrait être adopté très prochainement. C'est ce qui explique ce silence radio.
Un silence, Romain Cliva, qui est diversement apprécié par les parlementaires.
Des élus de tous les partis s'impatientent. Les plus remontés se trouvent dans les rangs de l'UDC. Pour le Zurichois Hans Fehr, les choses sont claires. Le Conseil fédéral prépare, et je cite, « clandestinement l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne avec un plan secret ». Et du côté du nouveau mouvement européen suisse, on voit plutôt dans cette prudence un signe de plus de l'indécision du gouvernement.
Merci Romain Cliva, en direct de Berne.
Avec nous deux invités pour débattre de ces questions européennes. Frédéric Esposito, membre du NOMES, spécialiste de la politique européenne. Et puis Eric Bertina, coordinateur romande de l'ASIN, l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, député UDC au Grand Conseil. Bonsoir à vous messieurs.
Bonsoir.
D'abord, Eric Bertina, franchement, vous y croyez encore, l'histoire de complot, de plan secret pour adhérer à l'Union européenne, Hans Fehr qui était cité par Romain Cliva. Les élections sont derrière maintenant. Vous pouvez nous dire là, ce que vous en pensez vraiment?
Alors je peux vous dire la vérité, oui j'y crois. Oui je crois que quand on n'a rien à cacher d'abord, eh ben, on montre les pièces susceptibles de pouvoir répondre à toutes sortes de doutes et de perplexité dans le camp adverse. Le Conseil fédéral sait très bien que pour l'association l'ASIN et ses nombreux membres, on est très suspicieux sur ce sujet. On a toujours suspecté le Conseil fédéral de nous mentir, à commencer par ce fameux retrait de l'adhésion même.
Mais qu'est-ce que vous pensez
européenne.
Vous pensez qu'ils sont en train de préparer une adhésion comme ça, un coup de force, une sorte de coup d'État institutionnel d'ici la fin de l'année?
Ouais, je ne parlerai pas de coup de force ou de coup institutionnel, je parlerai de coup fourré tout simplement. Ils sont en train de chercher comment est-ce que la Suisse va pouvoir rentrer dans l'Union européenne par la petite porte. Il existe différentes petites portes pour y arriver.
Lesquelles?
Vous l'avez dit, vous l'avez dit vous-même que l'un des 2 rapports ou des 2 rapports livrait justement réponse à cette question. On peut penser à d'autres choses, simplement de reprendre par exemple intégralement le droit de européen.
C'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Ouais, c'est bien ce qu'on fait. La Suisse se montre même particulièrement bon élève et nous met pratiquement de facto dans l'Union européenne, sans y être, mais de facto, puisqu'on reprend l'intégralité du droit européen. On peut aussi penser à des démarches telles que celle de la BNS, qui petit à petit change la monnaie suisse en euros en mettant les pieds sur des marchés européens. Bref,
pour faire baisser le franc. Si vous permettez.
Pour faire baisser le franc, mais jusqu'où?
Oui, jusqu'où? Frédéric Esposito, là, on a la théorie de l'asile, c'est plutôt le complot, on veut nous faire entrer dans l'Union européenne. Vous, comment est-ce que vous interprétez le silence du Conseil fédéral?
Tout simplement, le Conseil fédéral aujourd'hui, comme depuis maintenant, j'ai envie de dire, plus d'une décennie, ne sait pas quoi faire pour faire évoluer le cadre bilatéral. On voit bien les limites que pose ce cadre-là, et la seule stratégie qu'il semble vouloir adopter, c'est au fond exploiter les interstices institutionnels que lui propose le droit européen, que ce soit d'essayer d'étendre la compétence de la Cour à LAE, par exemple, aux accords bilatéraux, et en faire une stratégie. Or, ça n'est plus possible aujourd'hui, d'autant plus que les demandes ou les revendications éventuelles que pourrait faire la Suisse dans ce domaine, il faut encore qu'elles soient acceptées par les États membres. Aujourd'hui, il suffit de voir l'agenda politique au sein de l'Union européenne, sans parler de la seule zone euro. Il n'y a pas beaucoup de place à des discussions avec la Suisse. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas en arrivant avec des solutions compliquées, peut-être très créatives d'un point de vue juridique ou intellectuel, que la Suisse va pouvoir rendre lisible et cohérente sa politique d'intégration. Car au fond, le grand enjeu aujourd'hui pour la Suisse, c'est de donner du sens à ses relations avec ses partenaires européens. Or, aujourd'hui, la seule approche fonctionnaliste ne fonctionne pas. D'ailleurs, au sein même de l'Europe, cette approche fonctionnaliste qui avait généré la communauté actuelle a laissé le pas à une évolution plutôt fédérale, où c'est les États membres aujourd'hui qui ont repris en main le destin européen.
Éric Bertina, au fond, le silence du Conseil fédéral, il est peut-être tout simplement gêné, parce que c'est très difficile de sortir de ce cercle vicieux avec l'Union. L'Union demande quelque chose, on peut pas le leur accorder. Il faut malgré tout qu'on reste bons amis, parce qu'on en a besoin, c'est le marché le plus important. Il est un peu coincé, le Conseil fédéral.
Ah, sans doute, mais il faut avouer qu'il a jamais cherché une autre voie réelle que celle qui devrait conduire à l'adhésion à l'Union européenne. Je remarque que dans son jargon propre, le Conseil fédéral a toujours crainte d'entraver sérieusement la formation d'opinion au sein du Conseil fédéral et de l'autre. Il y a toujours cet aspect qui laisse penser que le Conseil fédéral ne dit pas ce qu'il a vraiment envie de faire. S'il l'avait fait, il y a déjà plusieurs années, qu'il aurait retiré sa demande d'adhésion. Elle ne correspond pas à l'opinion politique suisse. La dernière fois qu'on a voté sur l'Union européenne, ça a été 82% de la population qui était opposée.
Ben justement.
La démarche logique aurait été déjà de retirer l'adhésion, la demande d'adhésion.
Mais elle a plus aucune validité, ça vous le savez, Éric Bertina, elle est au fond d'un tiroir dans les archives de l'Union.
Mais ça aurait été un geste très fort de la part du Conseil fédéral.
D'envoyer quelqu'un pour aller la chercher dans un tiroir au sixième sous-sol.
Mais on vit de symbole. À un moment donné, le Conseil fédéral aurait dû nous dire « Oui, nous retirons notre adhésion. » Les choses auraient été claires. Elles ne l'ont jamais été.
Elles ne l'ont jamais été. Frédéric Esposito, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Frédéric Esposito est toujours avec nous, oui, me dit-on en régie. Frédéric Esposito, sur le fait que le Conseil fédéral est très très embêté, la même question qu'à Éric Bertina, au fond, c'est très difficile de s'en sortir, des espèces de cercles vicieux, à la fois on doit suivre, mais on peut pas répondre à toutes les exigences de l'Union.
Alors, d'abord, je crois qu'il y a une... Si on veut effectivement rester, je dirais, dans le train européen, il faut aussi montrer une bonne volonté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Suisse est plutôt dans une position où elle cherche d'avant tout à exiger, au fond, des solutions qui n'ont pas de réalité institutionnelle, c'est-à-dire de tenir, au fond, un dessin institutionnel qui lui ressemble, une façon ad hoc, au fond, de gérer nos relations avec l'Europe. Et ça reste quand même assez difficilement acceptable pour l'Union européenne. Elle ne veut pas faire du cas suisse un modèle pour d'autres États membres. Et donc, c'est pour laquelle aujourd'hui, il y a une non-recevoir, en tout cas, sur les propositions suisses telles que vous les avez évoquées. Quant au débat, parce que je pense que c'est ça aussi l'enjeu, une des raisons qui explique la timidité du Conseil fédéral, c'est qu'il n'y a aucun relais sur le plan politique. Il n'y a pas eu de débat du tout sur les questions européennes. Et donc, finalement, et c'est même paradoxal, même pour une association auquel j'appartiens comme le NOMES, c'est une très grande difficulté à promouvoir les questions européennes aujourd'hui. Et donc, par conséquent, c'est le Conseil fédéral timidement qui essaye de le faire avec une certaine incohérence dans l'approche, mais aussi dans le contenu.
Frédéric Esposito, Éric Bertina, restez avec nous parce qu'on parle de la politique européenne de la Suisse, mais elle bouge aussi pas mal l'Europe et ça pourrait concerner la Suisse, Christelle Damangeau.
Oui, on va revenir sur cet accord conclu hier à l'aube à Bruxelles pour assurer la survie de l'euro. Cet accord a fait émerger de nouveaux rapports de force entre les 17 pays de l'eurozone et ceux qui n'en font pas partie, notamment le Royaume-Uni. Alors que du côté de Berlin et de Paris, on envisage maintenant sérieusement davantage de convergence fiscale parmi les 17, bien du côté de Londres, on craint d'être marginalisé. Catherine Illich, vous êtes notre correspondante à Londres. Alors, l'Europe, c'est toujours cette éternelle épine dans le pied de la Grande-Bretagne.
Oui, c'est effectivement comme ça qu'on voit les choses ici. Au fond, les Britanniques sont tiraillés entre deux sentiments. D'un côté, ils ne veulent surtout pas que la zone euro se désintègre, car les conséquences pour eux seraient désastreuses. C'est pour cette raison qu'ils plaident pour une union fiscale au sein de la zone euro. Mais de l'autre, c'est une idée qui leur fait très peur, car si l'on aboutit à un eurogroupe renforcé, le danger pour ceux qui n'en font pas partie est d'être éloignés du pouvoir de décision à Bruxelles. C'est une crainte qui a été exprimée au plus haut niveau, pas plus tard qu'aujourd'hui. Le Premier ministre David Cameron a parlé ce matin des attaques permanentes de Bruxelles sur la City de Londres en faisant indirectement référence au projet de taxe Tobin européenne. Londres redoute que cette taxe soit adoptée au sein de l'Eurogroupe sans que la Grande-Bretagne ait voix au chapitre.
Mais alors Catherine Illich, quelle stratégie envisage-t-on à Londres pour face à une zone euro au pouvoir renforcé?
Bien, rien d'officiel n'a été évoqué pour l'instant, mais l'on murmure en coulisses l'idée de créer un groupe qui contrebalancerait celui des membres de la zone euro. Ce club serait constitué des 10 pays de l'Union qui n'ont pas adopté la monnaie unique, 7 pays de l'Est, mais aussi la Suède, le Danemark et bien entendu le Royaume-Uni. Mais certains réfléchissent déjà à d'autres alliances qui pourraient aller au-delà de l'Union européenne, et c'est ce que suggère l'ancien Premier ministre John Major dans un article du Financial Times. Il imagine avec une Europe, avec un premier cercle, les 17 membres de la zone euro, et puis un deuxième dont les contours seraient plus flous, puisqu'il inclurait les 10 pays de l'Union qui n'ont pas adopté l'euro, mais aussi ceux de l'ALE, l'Association européenne de libre-échange, dont la Suisse fait partie. Au fond, ce serait une sorte de retour en arrière qui permettrait au Royaume-Uni de réaliser son grand rêve des années 60, l'émergence d'une large zone de libre-échange qui ferait contrepoids au noyau dur européen.
Catherine Illich, en direct de Londres.
Éric Bertina, ça vous fait rêver ça, une sorte de retour à la vieille ALE de l'époque, la Grande-Bretagne, la Suisse, d'autres pays, une zone de libre-échange mais rien de politique?
Non, alors c'est pas
même pas ça.
Les Anglais ont toujours été des eurosceptiques dans le sens parfait du terme, mais ça nous permet quand même de faire un lien avec le précédent débat que nous avions. Il y a des nouveaux rapports de force qui se font au sein de l'Union européenne. Vous avez constaté ces derniers mois, par exemple, la Commission européenne a été totalement marginalisée des décisions et que c'est l'Allemagne et la France uniquement qui se sont occupés de rétablir ou tenter de rétablir la situation de la zone euro. Donc ça laisse quand même quant à savoir qu'est-ce qui se dessine ces prochaines années et peut-être finalement que le Conseil fédéral, ma foi, retient ses documents en se disant peut-être que lui aussi, il va attendre de voir un petit peu plus clair dans ce bourbier.
Oui, c'est possible. Frédéric Esposito, le fait que la Grande-Bretagne un jour, une sorte de deuxième Europe qui soit hors du noyau de la zone euro, puis du coup le vieux rêve de la Suisse, l'ALE bis, avec cette deuxième zone européenne en dehors du noyau, c'est possible ça?
Elle est passée. C'est vrai que c'était les vœux notamment de la Grande-Bretagne dans les années 60 et de la Suisse. Il faut se rappeler aussi qu'une des raisons pour laquelle la Grande-Bretagne est devenue membre de l'Union, c'est qu'elle a vu que cette solution libre-échangiste ne fonctionnait pas, qu'il y avait plus d'avantages dans une union douanière qu'en dans une zone de libre-échange. Maintenant, ça vient de John Major, c'était quelqu'un qui, par sa position très eurosceptique, trouve là aussi une façon, je dirais, de sortir une vieille thématique. Je crois qu'elle n'est pas opportune. Techniquement, ce débat sur la possibilité pour la Suisse de faire partie de la zone euro sans être membre de l'Union européenne avait déjà été posé. Techniquement, je pense qu'il est faisable. Politiquement, ça me semble être quelque chose d'extrêmement difficile de mettre cela en place, surtout que face à l'Allemagne et à la France qui ont porté en grande partie la solution actuelle vis-à-vis notamment de la Grèce, ils accepteraient assez mal au fond de partager un pouvoir qui se sont attribués ces derniers mois avec 17, 15, 20 autres membres dont certains sont non seulement pas membres de la zone euro mais encore non membres de l'Union européenne.
De l'Union européenne, ouais, solution à laquelle manifestement est difficile de croire pour l'instant. Je remercie beaucoup Frédéric Esposito et Éric Bertina de nous avoir rejoints quelques instants. Une bonne soirée. Et Fulvio Pelli nous a rejoint à Berne. Bonsoir Fulvio Pelli.
Bonsoir.
Vous connaissez bien les questions européennes, Fulvio Pelli. Quand vous entendez John Major qui dit ouais, peut-être l'Union, la Grande-Bretagne sera dans une sorte de deuxième cercle européen, hein, en dehors de la zone euro, et pourquoi pas, il évoque l'ILE, hein, carrément, à nouveau une sorte de rêve libre-échangiste, sans trop de politique là-dedans, ça vous fait rêver, vous, ça?
Non, je pense que les politiciens de la génération précédente ont toujours la tendance à penser que ce qu'il y avait avant était mieux que ce qu'il y a après. Alors j'essayerai, quand je serai plus dans ma place où je suis maintenant, d'éviter de faire ce jeu. Le monde continue à avancer et il faut toujours regarder des solutions d'avenir et pas des solutions du passé.
Bon, on va en parler avec vous, justement, Fulvio Pelli.
Oui, justement, parce que si Fulvio Pelli est avec nous, c'est parce que les présidents cantonaux du Parti libéral radical ont tenu leur séance ordinaire cet après-midi à Berne. Ils se sont livrés à une analyse provisoire des élections fédérales de dimanche dernier. Le parti a perdu, on le rappelle, 5 sièges au Conseil national. Alors, Pierre Yenny, vous revenez à l'instant du point de presse. Quel bilan les libéraux radicaux tirent-ils de ces élections ?
Eh bien, un bilan en demi-teinte que vient de dresser d'ailleurs le président du parti, Fulvio Pelli. Si le PLR s'est clairement dit insatisfait du résultat de dimanche où 5 mandats ont été perdus, le parti minimise cette perte en précisant qu'il faudra attendre le deuxième tour des élections pour le Conseil des États. Et là, seulement chacun pourra compter les forces en présence et rendre une analyse plus fine. Le parti va donc continuer de se concentrer sur les thèmes forts qu'il a mis en avant ces dernières années. Plus d'emplois, des assurances sociales saines et un État efficace et proche des citoyens. Quant au Conseil fédéral, Fulvio Pelli a rappelé que son parti est le seul qui ne doit rien changer. Comprenez, il faut maintenir les deux ministres libéraux radicaux car les trois plus grandes forces politiques du pays ont droit à 2 sièges chacune. Exit donc un éventuel soutien à Evelyne Widmer-Schlumpf. La conseillère fédérale PBD jouit pourtant d'une bonne cote auprès de la population. Un sondage GFS Berne publié lundi montre que 71% des électeurs libéraux radicaux soutiennent la grisonne. Enfin, la succession du président a été évoquée. Un processus sera officiellement lancé le 8 décembre, mais le nom du futur chef du PLR ne sera pas connu avant le printemps prochain.
Merci Pierre Yenny.
Fulvio Pelli, on peut le dire, printemps prochain, comme prévu, vous ne serez plus président.
Oui, oui, ça j'ai annoncé. Il y aura une assemblée de délégués au mois d'avril dans laquelle quelqu'un prendra ma place.
Vous avez une idée ?
Non, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à faire des noms. Je pense que tout le monde peut y réfléchir depuis que j'ai annoncé que je pars. Et il y aura sûrement des bonnes et des bons candidats.
Ouais, ça fait peut-être pas très envie, Fulvio Pelli, le poste de président de parti quand on voit ce que vous recevez comme coup de bâton. Parfois, vous risquez même de pas vous faire réélire si vous avez passé un très mauvais dimanche. Ouli Leuenberger aussi, le président des Verts. Franchement, il n'y a que des coups à prendre dans ce job. Il faut être un peu masochiste pour le faire.
Bon, écoutez, c'est assez normal que ce soit une position à risque, car vous êtes le président de un parti, et pour tous les autres qui ne sont pas de votre parti, vous êtes un adversaire, le symbole des adversaires.
Donc, et aussi dans le parti,
c'est difficile de sortir du parti pour avoir du soutien.
On parle beaucoup de Karine Keller-Souter. Bon, elle a l'air assez claire, elle n'a pas envie d'y aller, mais est-ce que ce ne serait pas la meilleure chance pour le parti, pour se donner une image peut-être plus jeune, plus dynamique ?
Bon, c'est clair que le parti doit chercher quelqu'un de plus jeune et plus dynamique que moi, surtout plus jeune, car je pense être quand même dynamique. Mais bon, la candidature de Madame Keller-Souter, ce serait une très très bonne candidature, mais c'est pas à moi de juger les candidats avant qu'ils le soient. Elle a déjà dit 2 ou 3 fois à plusieurs personnes que elle ne veut pas, donc ça ne voudra pas, elle ne deviendra pas.
Ouais, elle l'a dit aussi sur nos ondes, elle est conseillère aux États, elle veut rester un peu en dessus des luttes partisanes à ce titre. Fulvio Pelli, défaite dimanche, alors un peu moins dur que vous aviez pu le craindre, mais finalement défaite quand même. Alors l'heure du bilan, c'est quoi les raisons principales ? Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui ?
Bon, écoutez, dans cette assemblée des présidents cantonaux, on a analysé, les conclusions sont qu'il ne faut pas changer la stratégie du parti. Le parti a décidé d'insister sur ces 3 thèmes, sur les places de travail, sur l'assainissement des assurances sociales, sur la lutte à la bureaucratie. Et tout le monde est convaincu que c'est juste qu'il faut continuer sur cette ligne. Même car, probablement, dans les prochaines années, les problèmes économiques seront plus importants que dans le passé. Donc, rester sur la ligne, insister à être un parti qui est plus agressif de ce qu'il a été dans le passé, essayer de jouer nos cartes, par un contact plus direct avec la population et nos électrices et nos électeurs. C'est ça un peu le problème que nous avons. Nous sommes perçus par nos électeurs pour des sympathisants de philosophie libérale, un peu différemment de ce qu'on essaye d'être. Et donc, il y a un problème de définition, de détail et de perception de notre parti qui ne nous donne pas encore de succès.
Fulvio Pelli, quand une entreprise perd des parts de marché, elle change plutôt la stratégie en général, non? Là, vous gardez la même. Par exemple, sur la bureaucratie, non. Votre initiative, très peu de signatures. Est-ce que c'est pas un signe, ça, que c'était pas le bon outil démocratique?
Bon, écoutez, nous, on a individué un problème grave dans l'évolution des systèmes publics suisses, c'est la bureaucratisation. On ne veut pas devenir comme les autres pays européens dont la bureaucratie domine. Alors, on a choisi de se battre pour cela. Nos gens ne sont pas très, très efficaces dans
la récolte
des signatures. Bon, mais oui, car il y a quand même derrière tous les partis, il y a une tradition. Notre tradition, c'est celle de gouverner, d'être dans les instances de l'État et de nous battre pour des solutions. Ici, on travaille avec une utile que ce n'est pas vraiment le nôtre, mais à la fin, on va y arriver. Et je pense que ce sera bien de discuter à l'avenir de comment on peut simplifier la vie des gens, des entreprises, de nous tous. Car si on continue comme on est en train de travailler, une loi pour chaque problème, je pense qu'on sera bloqué dans l'avenir.
Fulvio Pelli, vous évoquez un problème de perception par les électeurs. C'était un peu déjà le bilan il y a 4 ans à la fin des élections en 2007. Alors qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que les électeurs comprennent exactement ce que le parti est et ce que le parti veut faire?
Bon, il faut rester fidèle à sa propre ligne. On va continuer, c'est ce que j'ai perçu des présidents cantonaux, on veut rester sur la ligne, tenir les positions, devenir crédible, encore plus crédible sur nos positions.
C'était déjà le discours il y a 4 ans et pour l'instant ça ne marche pas.
Non, pardonnez-moi, après les élections de 2007, on a redressé la stratégie, on a repositionné le parti. Je vous rappelle que avant les élections de 2007, il y a eu beaucoup de confusion dans nos rapports avec, en particulier, l'UDC, avec laquelle on avait fait dans certains cantons de conjonction de listes. Il y avait un profil beaucoup moins clair du Parti libéral et on avait essayé de nous montrer comme un parti un peu plus jeune, un peu plus optimiste, de bon et actif de ce que nous étions. Maintenant, on a décidé non, on nous montre pour ce que nous sommes et je pense que lentement, ça va marcher.
Lentement, ça va marcher. Fulvio Pelli, c'est ce que les sympathisants de libéraux radicaux souhaitent. Peut-être pour conclure sur l'élection au Conseil fédéral, vous voulez à tout prix garder vos deux ministres, c'est bien normal. Vous dites, on est le troisième parti, on doit avoir 2 sièges. Les autres partis disent non, c'est la force électorale des partis qui compte. Mais quoi qu'il en soit, là, il faudra vous allier à l'UDC. Vous en aurez besoin pour faire passer vos candidats. Puis il faudra peut-être lâcher Wien Wilmer-Schlumpf. Vous pouvez dire ce soir, vous n'allez pas la réélire, elle n'a pas droit à son siège.
Écoutez, nous on ne parle pas de Mme Wilmer-Schlumpf. Nous on fait une analyse, quel est le gouvernement qui peut garantir à la Suisse l'efficacité la plus importante à l'interne du pays pour convaincre la population de certaines solutions quand elles vont en votation populaire et pour être efficace à l'étranger. Alors, on dit la meilleure formule c'est que les 3 partis plus grands ont 2 sièges et le 4e a 1 siège. Maintenant, si Mme Evelyn Wilmer-Schlumpf n'était pas au gouvernement, personne ne mettrait en discussion cette conviction. Il y aurait tout simplement à changer un socialiste. Maintenant, elle est sortie ou elle a été expulsée de l'UDC et ça crée un problème. Maintenant, son parti a fait 5,4%. C'était un très grand résultat pour un parti qui n'existait pas. Mais c'est quand même seulement un peu plus d'un tiers de ce que nous avons. Alors il faut se rendre compte qu'il faut quand même représenter aussi des électrices et des électeurs dans un gouvernement. Et le BDP a des difficultés à le faire. Evelyn Wilmer-Schlumpf n'a pas été élue par notre parti, on n'a pas de responsabilité vis-à-vis d'elle. Ceux qui l'ont élue peuvent répéter l'exercice, mais pas nous.
Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a bien compris. Fulvio Pelli, ce qui va se passer le 14 décembre. Je conclue. Ce printemps, vous serez plus président de parti. Vous allez démissionner aussi du national, c'est juste?
Non, je ne vais pas démissionner du national.
Vous aviez annoncé
sûrement
ça,
pas à court terme. Non, j'ai dit à mon parti au Tessin que quand j'aurai arrêté avec la présidence, j'aurai discuté avec le parti sur ce qui est opportun. Entre temps, je serai président de la députation tessinoise jusqu'à la fin de l'année. Alors, au moins jusqu'à la fin de l'année, je serai sûrement là. Mmh. Mais la décision sera prise avec mon parti cantonal.
Et après, vous ferez quoi, Fulvio Pelli?
Bon, moi je suis avocat et malheureusement depuis 7 ans je fais le président du parti et j'ai très peu de temps pour mon bureau. J'ai beaucoup à faire là-bas. Et maintenant, je le fais le dimanche, la nuit. Alors peut-être je pourrais le faire pendant la journée.
Oui, on vous appellera quand même de temps en temps encore, Fulvio Pelli. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, merci.
Merci à vous et bonne soirée.
Et puis, il est 18h29, l'heure d'accueillir Pascal Corbin-Boeuf qui est avec nous. Pascal Corbin-Boeuf, bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous, Pascal Corbin-Boeuf? Non, il n'est pas avec nous. Dans ce cas, on va passer au sujet suivant avec vous, Christelle Demangeau.
Oui, on va se demander s'il y a eu un jeu d'influence dans les bureaux de vote tunisiens en Suisse. L'instance régionale indépendante des élections, l'IRI, basée à Montréal, a reçu des doléances d'électeurs zurichois qui contestent le processus démocratique. Des électeurs tunisiens, Raphaël Grand, font état d'une tentative d'intimidation de la part du parti islamiste Ennahda.
Oui, tout est parti d'une photo publiée sur Facebook. Un homme tient devant lui une pancarte où il est écrit... Trois membres du bureau sont des cadres du mouvement de la Renaissance, à savoir le parti Ennahda. D'autres témoignages que j'ai pu recueillir parlent de bureaux de vote noyautés à Zurich afin d'influencer, voire même d'intimider les électeurs. Les trois personnes dont le nom figure sur l'écriteau sont décrites comme des cadres influents du parti islamiste. Cette présence d'Ennahda au plus près du scrutin n'est pas directement contestée. Mohamed Hassan, le responsable des élections tunisiennes en Suisse, refuse de parler de jeu d'influence. Les trois personnes incriminées à Zurich ont signé une déclaration sur l'honneur et le scrutin s'est déroulé en toute transparence, assure-t-il. Différentes mesures ont été prises dans ce sens. En Suisse, par exemple, les élections se sont déroulées à l'extérieur des bâtiments officiels tunisiens afin d'éviter justement de possibles intimidations. Les remous zurichois sont pourtant remontés jusqu'à l'IRI, l'instance régionale indépendante des élections basée à Montréal et qui gère la circonscription électorale pour la Suisse. L'IRI devra se pencher sur le cas zurichois.
Merci Raphaël Grand pour ces explications.
Et avec nous, Nejib Mili, le président du bureau de vote zurichois. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous confirmez d'abord la présence de ces trois personnes dans votre bureau de vote?
Absolument, je la confirme.
Et comment est-ce que vous avez appris leur présence? Comment est-ce que vous savez exactement de quelle obédience elles sont?
Alors, nous avons choisi nos collaborateurs sur l'efficacité et la compétence. Il s'agit de mener à bien des élections. Nous ne nous sommes pas demandé s'ils appartiennent à tel ou tel parti. Ils auraient pu appartenir non pas à Ennahda, seulement à d'autres partis. Et cette remarque que trois personnes appartiennent au Ennahda se base sur deux ou trois électeurs qui ont réagi en les voyant dans le bureau. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que ces trois personnes appartiennent à ce parti.
Est-ce que c'est dérangeant d'abord? Est-ce qu'elles-mêmes ont été transparentes, vous ont dit « oui, nous sommes des Ennahda »
Ils n'avaient pas besoin de le dire.
Bah, quand même.
Écoutez, je suis responsable de ce bureau. Ce qui m'importe, c'est la transparence, c'est que les élections se passent sur des bases démocratiques, qu'il n'y ait pas d'influence, et je peux affirmer que dans mon bureau, il n'y a pas eu de dysfonctionnement, il n'y a pas eu d'enfreinte au processus électoral, le dépouillement s'est fait d'une manière correcte, donc je ne suis pas d'accord avec cette affirmation qui a eu une influence quelconque.
Mais vous comprenez quand même qu'il puisse y avoir un doute dans l'esprit des gens, c'est vrai, trois personnes, vous dites qu'il n'y a pas besoin qu'ils disent à quel parti ils appartiennent, en même temps vous demandez de la transparence, on peut comprendre ce doute, c'était un scrutin important pour le peuple tunisien.
Très important, et le peuple tunisien a donné deux exemples, d'abord en éliminant une dictature, et deuxièmement, actuellement, en donnant une leçon de démocratie. Vous ne pouvez pas éliminer de votre bureau sous l'égide d'appartenance à un parti de gens compétents. Il s'agit de faire son travail. La Tunisie veut travailler, la Tunisie veut avancer, elle a toujours été pragmatique et elle trouve des solutions pragmatiques et vous le verrez, elle vous donnera une deuxième leçon.
Oui, ben on se réjouit, Nejib Mili. Mais là, c'est vrai qu'on parle de votre bureau de vote de Zurich. On va conclure avec une dernière question. Donc, il y aura cette enquête de l'instance régionale indépendante des élections pour les Tunisiens de l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Vous allez devoir répondre à quelles questions? Vous savez déjà un peu la procédure?
Écoutez, il n'y a pas une plainte déposée. Il y a une remarque d'un observateur. Et c'est normal que l'IRI aille au fond des choses. Et je pense que je répéterai ce que je dis. Et nous avons des observateurs qui peuvent spécifier la bonne conduite, et les autres membres du bureau qui peuvent également le spécifier.
Je vous remercie beaucoup Najib Milli d'être venu vous expliquer ce soir sur les circonstances de ce vote tunisien en Suisse aussi. Vous êtes président du bureau de vote zurichois. Najib Milli, une bonne soirée à vous.
Merci, pareillement.
Et puis on reçoit tout de suite, il est 18h34, Adam Arat, qu'on avait entendu déjà en ce début de forum, conseiller national socialiste vaudois. J'ai Michel Bard également. Bonsoir Michel Bard.
Oui, bonsoir.
Constituant genevois, vous êtes libéral, ancien patron des patrons à Genève. Adam Arat, Michel Bard avec nous pour parler de cette affaire et puis s'en extraire peut-être aussi pour en tirer quelques conclusions, cette affaire Novartis.
Oui, il y a eu toujours pas mal d'activisme après cette annonce par Novartis de supprimer 1 000 000 d'emplois en Suisse, dont 300 à Nyon, où le syndicat Unia rencontrera lundi l'ensemble du personnel dans l'enceinte de l'usine. La lutte contre la fermeture du site s'organise aussi sur le plan politique. Des contacts sont pris avec le gouvernement et le Grand Conseil vaudois, également avec des élus vaudois à Berne. Et puis une manifestation est prévue demain à Bâle, où auront lieu les autres suppressions d'emplois. Bâle, une manifestation à laquelle participera également une délégation vaudoise.
Alors Michel Bard et Adam, je vous propose d'entendre un ministre vaudois, c'est Philippe Lebas, il est libéral, il était dans Forum il y a 2 jours, il s'occupe de l'économie dans le canton de Vaud et puis il vient s'inquiéter et puis aussi contester ce qui s'est passé à Nyon vis-à-vis des employés de Novartis. On le recevait l'audio, je vous propose de l'entendre une seconde.
Je suis libéral et convaincu par le libéralisme, oui. Le libéralisme, c'est d'abord le respect de l'être humain, et par voie de conséquence, du travailleur, de celui qui contribue par ses efforts à la création de richesses. Maintenant, nous souhaitons, Conseil d'État, obtenir un certain nombre de renseignements de la part de l'entreprise pour voir si les mesures qui sont prises sont justifiées ou non et voir de quelles mesures elles doivent être accompagnées parce que le libéralisme, ce n'est pas jeter des gens dans la rue.
Voilà, c'était Philippe Lebas, le ministre libéral vaudois. Michel Bard, les libéraux, vous êtes un peu mal pris avec cette affaire, parce que finalement, c'est un peu votre système, hein, le capitalisme, la libre concurrence, on va là où on a les coûts fixes les moindres pour les entreprises, on peut pas tellement s'élever quand une entreprise licencie, non ?
On est toujours mal pris devant des licenciements, surtout lorsque ces licenciements sont assez importants, comme c'est le cas pour Novartis actuellement en Suisse, et notamment pour le site de Nyon, ça c'est tout à fait clair. Je crois que la première réflexion que l'on puisse avoir, c'est évidemment d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont licenciées et qui se trouvent par conséquent dans une situation difficile à l'heure actuelle. Cela dit, je pense qu'on va aborder également des problèmes de fond, parce que tout ceci pose un certain nombre de problèmes de fond. Je viens d'entendre M. Lebas, je ne puis que souscrire à ce qu'il a dit, bien entendu.
Quels sont les problèmes de fond pour un libéral, Michel Bard ?
Que ce soit pour un libéral ou pour un autre, il est évident qu'on ne peut pas figer les entreprises, qu'on ne peut pas figer l'économie. On vit dans un monde de libre-échange. Ce libre-échange profite très largement à un pays comme la Suisse. On dit volontiers, et c'est vrai, que près d'un franc sur deux est gagné à l'exportation. Par conséquent, nous vivons très largement de ce libre-échange. Et ce libre-échange, il ne peut pas se faire à sens unique. Nous sommes assez heureux d'accueillir en Suisse et dans le canton de Vaud des entreprises étrangères, des investissements étrangers. Nous sommes évidemment beaucoup plus malheureux lorsque telle ou telle entreprise suisse délocalise une partie de sa production pour des raisons qui sont celles de Novartis, dans lesquelles je ne vais pas entrer maintenant, dans la mesure où je connais pratiquement pas son actionnariat et les vrais motifs de sa décision. Ce que je veux dire, c'est que le libre-échange, évidemment, il peut jouer dans les deux sens.
Oui, Adam Arat, on en profite bien. Quand les entreprises quittent un pays pour venir chez nous, il ne faut pas trop se plaindre quand ici aussi, elles font un peu la même chose.
Écoutez, moi, ce que je constate, c'est justement la question que M. Bard veut éviter, donc qu'il faut se poser. C'est quelle est la logique, là, derrière, sans vouloir faire un cours du capitalisme de la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. On a eu 3 types de capitalisme. Le familial, jusqu'au XXe siècle. Celui qu'on peut appeler managérial jusque dans les années 70, autrement dit, où il y avait des propriétaires qui étaient devenus des actionnaires et une direction qui était le manager. Et là, on faisait de la rentabilité pour réinjecter dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est le capitalisme financier, où en fait, le seul mot, c'est le profit et la rentabilité pour les actionnaires et le manager. Quand on voit Novartis, M. Bard ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Quand on voit, si on prend le rapport annuel de Novartis 2010, on lit quoi ? Il y a 50, le chiffre d'affaires, c'était de 50 milliards en 2010. Quand on enlève tous les coûts, même les coûts de recherche pour les médicaments, etc., on arrive à 10 milliards de reste pour les actionnaires. Alors aujourd'hui, ils se retrouvent plus qu'avec 2 milliards, ils se disent « aïe, 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 je vais être moins payé ». Et donc, on va... Et puis le scandale d'aujourd'hui, parce qu'on dit « oui, l'économie, aujourd'hui, le libre-échange ». Le scandale pur de cette affaire, on l'a dit tous ces jours, donc je vais rester banal, c'est que c'est une entreprise qui fait du bénéfice, qui aujourd'hui a décidé de mettre 300 à 600 personnes au chômage. Et c'est ce système de rentabilité à tout craint qui crée cela.
Michel Bard, c'est vrai que bon, ça, les gens ne comprennent pas. Hein. Énorme bénéfice, on met les gens dehors. Et puis, est-ce qu'on n'est pas trop une sorte de capitalisme de l'actionnaire avant celui des employés?
Oui, deux choses. La première chose, je n'ai pas dit que je ne comprenais pas. Je me suis borné à dire tout à l'heure que je ne connaissais pas les motifs profonds de la décision de Novartis. C'est un tout petit peu différent. Deuxième remarque, on met toujours tout sur le dos des actionnaires. Il faut savoir pourquoi les entreprises utilisent et ont recours à de l'actionnariat. C'est que pour eux, c'est évidemment beaucoup plus avantageux que de recourir à des banques. Donc l'actionnariat est de manière générale utile aux entreprises. Troisième remarque, mais là je fais de l'hypothèse parce qu'encore une fois je ne connais pas les raisons profondes. Si on attend toujours qu'une entreprise soit déficitaire pour accepter qu'elle délocalise ou qu'elle transfère une partie de ses activités, ce sera très souvent trop tard. Le rôle d'une entreprise, c'est souvent d'anticiper.
Alors, d'anticiper le licenciement des gens.
Est-ce que Novartis a raison d'anticiper ? Je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas la réponse. Je pense que M. Lebas avait raison tout à l'heure de dire que le Conseil d'État souhaitait des explications complémentaires de la part de l'entreprise.
Anna-Mara.
Bah, on espère en tout cas, parce que moi je suis pour que toutes les parties de ce canton se mettent ensemble pour faire pression. Maintenant, si à chaque fois, le danger avec de tels comportements de Novartis, c'est qu'à chaque fois, une entreprise va dire « Ok, à chaque fois que moi je veux recevoir, je veux licencier un peu, je dis que je vais licencier tout le monde. » Après, je vais dire « Ah non, je vous concède un peu des licenciements en moins. » Mais ce que j'aimerais dire par rapport à la délocalisation, moi ce que je sais en ayant visité notamment des entreprises de haute technologie, à Neuchâtel, c'est que les patrons nous disent nous on fait extrêmement attention dans la délocalisation parce qu'on vend notre savoir-faire. Et là aussi, vouloir délocaliser pour faire du profit à court terme, ça veut dire qu'à long terme, ils vont copier les technologies en Chine, en Brésil, où vous voulez, et nous, on sera perdants. Puis une autre chose par rapport aux patrons. Il y a des petits patrons et des PME aujourd'hui qui se plaignent. J'ai des témoignages de patrons, là je ne les cite pas, mais qui nous disent, mais nous, à part l'honneur, mais simplement, bah, c'est de la concurrence déloyale que de faire ça. Et donc, mettre même des gens au chômage technique, parce que je rappelle qu'il y a eu 340 personnes qui aujourd'hui vont être licenciées, puis il y en a 300, on ne sait pas ce qu'on va faire d'elles, eh bien, elles seront certainement ou peut-être mises au chômage technique. Et là, c'est en gros l'assurance chômage, le citoyen qui doit payer le fait que Novartis, qui fait 2 milliards de bénéfices, doit payer ce chômage. Là, il y a quand même de l'injustifiable, dans toute logique. Si c'est ça le libéralisme, monsieur Bard, eh bien, je ne suis pas sûre, j'ai beaucoup plus de respect pour les idées libérales, humaines, que ce que vous prétendez aujourd'hui.
Michel Barnet, mais du coup, avec le libéralisme, il faudrait être pour un gros filet social, en quelque sorte, pour contrebalancer le fait que les entreprises peuvent quitter un pays rapidement pour leurs biens.
Non, mais enfin, un gros filet social en Suisse, on a un gros filet social. Je suis un tout petit peu étonné que Mme Adamara parle de concurrence déloyale. Parce que si on parle de logique, il faudrait l'appliquer partout. Le commerce de détail en Suisse vit aujourd'hui des heures assez difficiles parce que vous avez une masse de consommateurs qui va s'approvisionner en France voisine, ou en Allemagne voisine, en Autriche voisine, en Italie voisine. Est-ce qu'on traite tous ces gens-là de concurrence déloyale parce qu'ils vont faire des achats dans les régions voisines étrangères en bénéficiant d'un euro qui est plus bas? J'entends, la logique elle est la même pour tout le monde. Et dans le commerce de détail, les entreprises souffrent de cette situation. Alors, est-ce qu'on veut, et c'est un des fonds du problème dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on veut complètement fermer les frontières? Si on ferme les frontières, notre pays sera une des premières victimes, je le répète, parce que le libre-échange, il en profite énormément. C'est donc une des questions qu'on doit poser. Il est très difficile de contraindre les entreprises pour leur dire quels doivent être leur management. Encore une fois, et je le répète, je comprends parfaitement bien que le Conseil d'État vaudois souhaite obtenir des explications de la part de l'entreprise. Je trouve ça parfaitement normal.
Adamara.
Pour le reste, je crois qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise, parce que la logique, encore une fois, on pourrait l'utiliser dans nombre de cas.
Adamara, Michel Barr le dit, c'est difficile de contraindre les entreprises et leur dicter leur stratégie. Maintenant, est-ce que du côté du politique, on ne pourrait pas améliorer peut-être les conditions cadres pour faire que la pharma, c'est une industrie assez importante en Suisse, reste en Suisse et continue d'investir en Suisse? Est-ce que vous n'avez pas un rôle aussi à jouer au Parlement?
Oui, moi je le vois aussi dans le cadre justement du filet social, hein, parce qu'il faut savoir de quoi on parle aussi. Aujourd'hui en Suisse, notamment, si on prend le cas de Novartis, sur les 600 employés, il y en avait que 100 qui étaient sous convention collective de travail. Et toutes les grosses entreprises qui viennent en Suisse, qui sont dans l'arc lémanique, je pense à Renault, je pense à Medtronic, aucune d'elles n'a de convention collective de travail. Donc là, il faut renforcer, il y a quelque chose à faire là. Et puis, il y a peut-être à réfléchir, à mettre dans le code des obligations. Par exemple, hein, aujourd'hui, ça semble peut-être absurde, mais je ne le crois pas, de dire les licenciements collectifs, en tout cas en cas de bénéfice des entreprises, doivent être interdits.
Interdire les licenciements, Adamara.
En cas de bénéfice de l'entreprise.
Michel Barthes, je vous sens fulminer au bout du fil.
J'étais sûr qu'on arriverait à ça. Alors, si vous voulez commencer à interdire les licenciements pour des entreprises qui, par définition, sont soumises aux aléas de la conjoncture et de la conjoncture mondiale, qui sont soumises à la concurrence, qui ne pourraient donc d'aucune manière anticiper sur la stratégie qu'elles doivent suivre, vous aurez des conséquences qui seront effroyablement néfastes.
Comme on en a aujourd'hui sur l'assurance chômage, Monsieur Bard.
Elles ne peuvent que le regretter.
Ouais, Adamara, en France, on n'a pas le droit de licencier, mais du coup, on n'engage pas. Hein. C'est souvent ça le problème, non?
Oui, mais alors, faut voir comment on engage. Je veux dire, bien sûr, alors, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on peut trouver son contraire. Aujourd'hui, il y a un fait qui est juste scandaleux, c'est quand on fait du bénéfice, on ne peut pas licencier parce que c'est la collectivité qui se retrouve à payer finalement les bénéfices du patron qui veut s'en mettre plein les poches.
Mais non, mais ça c'est
mais oui, slogans. Monsieur Bard, c'est la situation.
Madame Mara, pourquoi est-ce qu'il existe une assurance chômage? C'est précisément pour instituer un filet de sécurité. Vous avez dit par ailleurs que la pharma n'investissait pas en Suisse. Dans le même temps, Novartis investit, je crois, quelque chose comme 70 millions à Bâle. Donc il ne faut pas dire que la pharma n'investit pas en Suisse, elle investit. Mais il est évident, je le répète, une entreprise ne peut pas être figée dans ses structures. Elle bouge comme toute la conjoncture bouge.
Adamara.
Non, mais simplement par rapport au filet social, je rappelle juste, c'est le peuple qui a décidé, hein, qu'on a coupé dans les prestations de l'assurance chômage, qu'en Suisse, c'est un des pays le plus facile pour licencier. On est loin de la France, on est loin de l'Italie, on est loin de tout ça. En Suisse, il faut au contraire renforcer ce droit du filet social. Hein. Ça, c'est évident.
Mais regardez la réalité. Les pays,
regarde, hein, surtout ceux qui ont été licenciés.
Supplémentaires au licenciement sont des pays qui vont beaucoup plus mal que nous. L'une des chances de la Suisse, c'est d'avoir un marché du travail relativement flexible qui fait que les entreprises engagent. Si elles ne peuvent plus licencier, les entreprises n'engagent pas. Elles n'engagent pas.
Oui, mais
elles ont recours à des travaux temporaires, à des auxiliaires, bref, à du travail précaire. Très exactement ce que vous dénoncez, à juste titre,
mais,
dans une certaine
d'accord, mesure. D'accord, mais il y a quand même un nouveau phénomène, c'est que ce sont des entreprises qui font des bénéfices aujourd'hui, qui mettent sur le tapis des familles entières. Ça, c'est quand même la nouveauté du libéralisme. Et ça s'étend aussi au service public, quand on voit la Poste, qui a fait exactement la même chose, malheureusement. Donc c'est une pensée qu'il faut stopper à tout prix et maintenant.
Adamara et Michel Bard, je vous remercie. Je sens que vous pourriez continuer, mais on vous en empêche. C'est aussi ça, ma foi, le libéralisme aussi, oui, si on veut bien. Michel Bard, Adamara, je vous souhaite une excellente soirée.
Merci, vous aussi.
Et bonsoir, Georges Niva, à 18h47, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez les lettres russes depuis très très longtemps. Grand connaisseur de la Russie, Georges Niva. Avec vous, on va parler du Bolchoï, ce mythique grand théâtre de Moscou qui rouvre ses portes ce soir. Grande soirée de gala, Medvedev est là. 6 ans de fermeture, 700 millions de dollars de rénovation. Je lis à l'instant une dépêche qui va dans les détails. Hein, sur les dorures de la salle qui ont été posées, 7 couches successives à la base traditionnelle du blanc d'œuf, puis nettoyées à la vodka et polies avec des queues d'écureuil. Merci d'ailleurs l'agence France Presse. Georges Niva, c'est quoi le Bolchoï pour la Russie? Dites-le-nous.
C'est un des deux grands théâtres. Hein. Il y a deux capitales, il y a Saint-Pétersbourg et Moscou. Et donc, il y a le Mariinsky à Saint-Pétersbourg et puis il y a le Bolchoï à Moscou. Les deux capitales sont toujours en concurrence du point de vue culturel, musical, opéra. Puis Saint-Pétersbourg a pendant longtemps été la capitale. Alors, c'est une très bonne nouvelle que le Bolchoï, qui, dans son état actuel, au fond, il date de 1850 à peu près. C'est du style néo-empire, grandiose. Il était pratiquement ruiné par l'absence de tout entretien hein, pendant toute la période soviétique. Et bon, c'est quand même une institution, c'est l'institution du ballet. C'est l'incarnation du ballet. C'est là qu'il y a eu le maître de ballet Petit Pas, le français, dont les ballets sont d'ailleurs reproduits par la nouvelle équipe, je crois, en ce moment. C'est une très bonne nouvelle.
Mais le peuple russe, au-delà des grands amateurs d'opéra, se sent vraiment attaché à cette institution, en est fier.
Bon, je ne sais pas. Par exemple, les pétersbourgeois doivent être légèrement indifférents. Chaque ville a son théâtre. Il y a quand même une religion des arts visuels, vous savez, en Russie. Chaque ville a un théâtre de style empire, à sa troupe. Et ça, c'est une espèce de religion qui s'est fondée au XIXe siècle et qui a continué à l'époque soviétique. Maintenant, rappelons-nous que le Bolchoï a aussi eu des hauts et des bas hein, à l'époque soviétique. Il y a eu les défections de grands danseurs et il y a eu la mise à pied de Rostropovitch qui dirigeait pendant 3 ans. C'est-à-dire que le grand théâtre s'enfonçait dans une espèce de conservatisme formel que beaucoup de ses artistes ne supportaient pas. Alors, aujourd'hui, c'est changé, on va voir. Mais je notais qu'en ce moment, je crois, c'est la réouverture, on donne La Pucelle d'Orléans de Tchaïkovski, d'après Schiller, traduit par le poète russe Joukovski. Donc, on fait appel à Tchaïkovski et à un opéra de thème occidental, et on fait appel au ballet Spartacus de Khatchaturian.
Vous le disiez, hein, le Bolchoï, à un moment, s'était enfermé dans une sorte de conservatisme formel. Là, on n'a pas seulement dépoussiéré le contenant, mais aussi le contenu. Ce sera plus moderne, peut-être, moins l'incarnation du ballet classique, mais un peu plus moderne, le Bolchoï.
Écoutez, je ne sais pas, parce que je dois confesser que j'ai pas vu de récentes, les dernières mises en scène, enfin récentes, sont pas récentes, puisqu'il a fermé il y a 6 ans. Donc, on ne sait pas très bien. D'après le programme de la réouverture, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on a fait appel aux grandes pages du Grand Théâtre. Tchaïkovski a quand même donné beaucoup de ses premières au Grand Théâtre, c'est-à-dire à Moscou, mais d'autres à Saint-Pétersbourg.
Et Georges Niva, les armoiries Romanov sont réapparues avec cette rénovation. Hein. Il y avait des globes, des lyres communistes un peu partout. Ça dérange, ça choque, ou maintenant c'est devenu... On s'est réconcilié en quelque sorte avec son passé en Russie?
Ça, c'est tout à fait normal. Disons, l'étendard, le drapeau officiel, c'est quand même le drapeau tsariste, c'est le drapeau tricolore russe. L'armée ayant conservé, elle, le drapeau rouge. Donc, vous savez, il y a une espèce de bisymbolisme comme ça, un petit peu partout. Mais... il était normal que l'aigle à deux têtes revienne et remplace le marteau et la faucille. En revanche, on a toujours le très beau quadrige immense qui est au-dessus de la...
Tiens, il nous a quitté en musique, Georges Niva. Ça peut arriver, on dirait. Une musique d'attente, quand on met en attente le correspondant. Vous êtes encore avec nous, Georges Niva? Eh ben non, mais c'était une très belle musique d'attendre. Je vous en propose une autre parce que malheureusement on va devoir prendre congé de Georges Niva, tout en douceur comme ça. C'est aussi ça la radio en direct. Je vous propose d'écouter tout autre chose. C'est Opéra de Glinka. C'est ça qui sera joué pour la première grande soirée au Bolchoï. C'est Ruslan et Ludmila. Je vous propose d'écouter. Ruslan et Ludmila, Georges Niva vous a retrouvé.
Oui.
Qu'est-ce que c'était cette musique d'attente là? C'est votre téléphone?
Je sais pas.
Ça, vous reconnaissez?
La musique de Glinka, oui.
Voilà, c'est ça qui sera donné, je crois, la semaine prochaine, la première grande soirée.
Hein. Avant, on avait rouvert le Bolchoï en 1856, je crois, avec Glinka, La vie pour le tsar. On le reprend aujourd'hui avec Glinka, mais je crois que c'est Roussane et Ludmila.
Ah, bah je sens que vous allez de nouveau nous quitter, Georges Niva.
Je suis toujours là.
On est arrivé au terme de cet entretien. Je vous remercie beaucoup, Georges Niva.
Je vous en prie, au revoir.
Et puis on souhaite bonne soirée aussi à ceux qui inaugurent le Bolchoï ce soir à Moscou. Et puis on revient un tout petit peu plus près de chez nous, c'est en Valais, tout de suite, Christelle Domingeau.
Ah oui, on va terminer ce forum avec cette démission du président du conseil d'administration de l'hôpital du Valais, anciennement le réseau Santé Valais. Raymond Pernet abandonne son mandat avec effet immédiat, tout comme deux autres membres du conseil. C'est dire que d'ici la fin de l'année, le gouvernement valaisan devra procéder au renouvellement complet du conseil d'administration de l'hôpital du Valais.
Raymond Pernet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le désormais ex-président du conseil d'administration de cet hôpital du Valais, ce qu'on appelait anciennement Réseau Santé Valais, d'ailleurs un nom très connoté. Raymond Pernet, est-ce que finalement votre démission, c'est pas un peu le dernier épisode d'un long gâchis qui a duré des années ?
Écoutez, vous êtes bien sévère, hein, avec une réforme hospitalière qui est, à mon avis, prometteuse et qui place le Valais dans de bonnes conditions pour affronter l'année 2012. Non, je crois que ce n'est pas un gâchis.
Hein, mais si pourquoi vous démissionnez, Raymond Pernet ?
Mais on démissionne parce que c'est une opportunité pour rétablir un petit peu le calme. Les hôpitaux, vous savez, hein, dans les soins, il faut que nos patients puissent être traités dans le calme et sans subir des vagues successives de polémiques stériles.
Mais Raymond Pernet, prenons un exemple, la réforme de ce réseau Santé Valais va être pilotée, Maurice Tournet l'a décidé, par les personnes qui avaient été attaquées dans l'audit indépendant qui traitait de ce réseau Santé Valais. C'est pas de très bon augure quand on lit ça, non ?
Bah écoutez, le Conseil d'État décidera de faire piloter la réforme par les gens qu'il jugera les plus compétents. Ce qu'il faudra éviter, c'est de faire partir toute une série de gens qui en ont marre de cette polémique. Et vous savez, les médecins-chefs, aujourd'hui, on ne les trouve pas comme ça tous les jours. Hein. Vous avez vu hein, qu'entre Lausanne et Berne, pour trouver un médecin-chef de gynécologie et d'obstétrique, on met quelques temps. Hein, on ferme même le service à Fribourg, pardon.
Ouais. Effectivement. Mais Raymond Pernet, quand vous tirez votre bilan présidence de ce réseau Santé Valais, tel qu'on l'appelait, quelles erreurs vous ne commettriez plus si vous deviez tout recommencer?
Ouais, alors vous savez, si en matière de santé publique, on faisait tout juste et on ferait toujours ce que voudrait le peuple, hein, on ferait rien. Hein.
Mais si on essaye?
Si on essaye, bien sûr, on peut toujours faire plus de participation, on peut toujours être plus médiatique, hein, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de l'éphémère où tout ce qui est médiatique est très important, on est dans l'émotionnel la plupart du temps. Et ma foi, nous on est peut-être un peu vieux jeu, ça fait plus de 20 ans que je me consacre et que j'ai consacré du temps à la vie publique, d'abord comme député, puis après à la tête de l'hôpital du Valais. On a fait notre temps, je crois.
Mais Raymond Pernet, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la manière dont tout cela a été géré? Parce qu'on a l'impression, quand je disais long gâchis, il y a eu des problèmes très tôt, on a continué les mêmes personnes, il y avait pas mal d'attaques assez dures, hein, en même temps on gardait un peu le cap, puis tout à coup on change tout, mais trop tard.
Non, on n'a pas changé tout. Hein. Il faut bien vous imaginer que mettre 10 établissements ensemble, les faire travailler ensemble, créer des équipes nouvelles, ça fait des problèmes, je veux dire, ça fait des problèmes de personnes, ça fait des problèmes de sensibilité, on a hiérarchisé à l'intérieur de l'hôpital du Valais, et tout ça, c'est des choses qui se font pas comme ça, et il y a des soubresauts, aujourd'hui on vit, on a peut-être eu trop de calme au début, je dirais, hein. Mais imaginez-vous voir, par exemple, tout ce qui a été fait à l'époque, hein, tout ce que les médias ont écrit à l'époque quand on a fermé la maternité de Martigny et Thiers. Hein, aujourd'hui, on voit que c'est une décision qui était parfaitement justifiée. On ne trouve plus de médecins-chefs pour occuper des postes dans des petits hôpitaux. Et puis aujourd'hui, on parle de concentration partout, hein, y compris à Berne. Hein. Donc, je veux dire, l'audit nous a confirmé dans la justesse de notre planification. Alors, il peut y avoir, c'est clair, on a peut-être marché sur des susceptibilités, mais vous savez, 300 médecins à gérer, j'en sais bien quelque chose, c'est pas une chose facile.
300 médecins, effectivement, on vous croit sur parole, Raymond Pernet. Démission, ce soir, désormais ex-président du conseil d'administration de ce qui s'appelle désormais Hôpital du Valais. Je vous remercie beaucoup d'être venu.
Je vous corrige.
Ah, attention.
Que, le décret, la loi n'a pas passé, donc on reste sous la dénomination RSV.
Vous restez RSV, après tout, forcément, c'était censé devenir hôpital du Valais.
Dans l'ancienne loi.
Réseau Santé Valais, c'est décidément c'est un nom qui est insubmersible, on va en parler encore quelques temps. Merci beaucoup Raymond Pernet.
Je vous souhaite bien du plaisir à ceux qui nous succéderont et j'espère qu'ils auront plus de succès que nous.
Eh bien, merci. On jugera sur pièce Raymond Pernet, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
La météo, c'est Sébastien Dupéré.
Une dépression centrée sur la Méditerranée entraîne sur l'ouest de la Suisse des passages nuageux parfois denses qui gêneront par moments l'ensoleillement ces prochains jours. Le temps s'annonce tout de même agréable jusqu'à mardi en fin de journée où une perturbation faiblement active nous touchera. Demain, des bancs de stratus occuperont le ciel jusque vers 700 mètres en plaine. Ils devraient se dissiper en bonne partie en début d'après-midi. Au-dessus de cette grisaille, en Valais et l'après-midi, le temps s'annonce bien ensoleillé malgré quelques passages nuageux le long du Jura. Les températures à l'aube, 2 degrés en Valais, 5 au nord des Alpes, l'après-midi 12 sur le plateau et 17 en plaine du Rhône. Dimanche et lundi, les conditions resteront pratiquement identiques, un temps agréable avec un soleil bien présent, malgré toujours des passages nuageux plus denses sur l'ouest. Les températures oscilleront entre 13 et 16 degrés.
La météo avec Comparis, service de comparaison de primes d'assurance maladie, comparis.ch.
Infotrafic RSR
avec les Gouzes et Terroirs du 28 octobre au 1er novembre à Bulle et le Gruyère à Haussé.
Sur l'axe Genève-Lausanne, le trafic est ralenti entre l'échangeur du Vengeron et le pont de la Versoix en direction de Lausanne. Excellent week-end à tous, c'est la fin de ce forum. Caroline Christina à l'édition, Fabrice Araldi et Mathieu Balmer à la technique. Il est 19h sur la première.